Amis de Radio Silence, bonjour. La question des réfugiés va s'installer durablement, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est toutes les questions qu'elle pose en matière de gouvernance, à la fois internationale, mais aussi au sein de chaque pays, notamment dans la gestion des crises. Et cette crise des migrants, puisqu'on l'appelle une crise, interroge deux aspects de l'Union européenne qui lui font excessivement défaut, c'est le déficit de prévisibilité et le déficit de réactivité. Donc j'ai choisi de faire un peu une revue de presse pour cette émission et je vais commencer par ce que le commissaire Antonio Guterres a dit, le haut commissaire au commissariat des réfugiés des Nations Unies. Il accuse l'Union européenne d'avoir échoué à faire face à la crise et à proposer une action coordonnée alors qu'elle a et l'espace et les ressources suffisantes pour absorber les immigrants qui se présentent à ses frontières. Il dit ceci, toute cette souffrance étalée dans la crise des migrants n'était pas nécessaire car l'Europe a échoué à la fois à s'organiser, mais aussi dans son système d'asile qui est extrêmement dysfonctionnel et ces dernières semaines, il était carrément chaotique. C'est le haut-commissaire qui le dit. Hein. Il le dit d'ailleurs à Paris et il précise que si l'Europe avait été mieux organisée, cette crise aurait été tout à fait gérable sans... je vais dire sans drame. Donc, d'où vient la crise? Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Mais peut-être que cet aspect-là de la question va être mis en sourdine cette fois-ci. Simplement, on va souligner quand même que le gros du problème vient de la Libye parce que le mode opératoire qui a eu lieu en Libye en soutenant des rebelles soi-disant modérés est le même qui a été appliqué en Syrie pour destituer le président Assad, puisque c'est cela l'objectif, destituer le président Assad. Il se trouve que pendant qu'on bombardait la Libye, les armes qui ont été volées et détournées sont arrivées aux mains des rebelles syriens, soutenus par la communauté internationale, en passant par la Turquie. Dans le même temps, du côté de la fin de mission des États-Unis en Irak, les forces militaires se sont redéployées sur la frontière jordanienne. Du coup, la Syrie s'est trouvée un tout petit peu encerclée et le président Assad, minoritaire, car tous les rebelles autour étaient soutenus par la communauté internationale. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, ces rebelles-là avaient un autre projet qui était celui du califat et total collapse. Révèle aujourd'hui que le département d'État sait depuis 2012 que le projet était de ce califat était bel et bien réel, mais peu importe, il fallait absolument destituer Assad et quitte à ce que après on ait la politique de la terre brûlée, peu importe. Donc il y a une grosse irresponsabilité au niveau international sur la gestion des crises et même sur la création de ces crises qui fait qu'on est vraiment là dans l'absurdité. Mais peut-être que cela va moins nous inquiéter. Hein. Puis de toute façon, c'est le passé, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut voir quelles sont les solutions qui sont proposées et c'est là l'objet du débat. Alors, on a cette accusation des pays arabes qui émane un peu du président Hollande tel que c'est rapporté hein, dans les journaux et aussi... des médias américains qui se demandent pourquoi les pays arabes ne font pas le job. Alors, les pays arabes ne vont pas faire le job à la place de ceux qui ont créé le chaos. Il est vrai que l'Arabie Saoudite et les Émirats, ça on le sait, et la Jordanie d'ailleurs, ont beaucoup contribué, et la Turquie aussi, au soutien des alliés dans leur, on va appeler ça maintenant, vendetta, hein, des pays contre les grands chefs d'État de la région qui gênent le projet du grand Israël parce que Israël ils font toujours valoir des problèmes d'insécurité, ils veulent toujours s'agrandir et derrière cette peur imaginaire qui justifie tout et qui justifie que on aille casser la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Pourquoi les pays arabes ne prennent pas leurs frères. Déjà, le général de la Jordanie, Mahaira, qui est chargé de s'occuper de cette question des réfugiés syriens, indique qu'il est quand même amusé de voir que la panique semée par la crise des migrants en Europe, parce que la Jordanie, quand même, a accueilli 400 000 réfugiés entre 2012 et 2013. Et en 2014, elle a ralenti un peu ce flot. Elle en a accueilli 90 000 cas quand même, parce qu'elle craignait l'infiltration des groupes terroristes parmi les réfugiés accueillis. Donc les points ont été réduits de 45, les points de passage, de 45 à 3. Ça, c'est El Watan qui rapporte cette information. Toujours est-il dit qu'en 2015, la Jordanie en a accueilli 10 000 supplémentaires syriens. Au total, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies estime qu'il y aurait environ 600 000 Syriens en Jordanie. Et probablement, le gouvernement de la Jordanie pense plutôt à 1,4 million de Syriens sur son territoire, ce qui représente 20% de sa population. Si on devait rapporter tout cela à l'Union européenne, on aurait une capacité, une prévisibilité d'accueil de 20 millions de migrants. On est très 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 loin du compte et on ne comprend pas pourquoi les gens crient. L'autre problème, ils crient à Schengen, aux frontières qui ont été élargies. C'est vrai, les gens arrivent par la Grèce et par l'Italie et à partir de là, ils essayent de se déployer préférentiellement en ce moment vers le nord parce que là aussi, il y a un choc de culture entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud et le Nord européen, où l'exaspération que l'on voit dans le Sud devient une forme d'enthousiasme dans le Nord, mais c'est tout à fait, comment dirais-je, on peut le comprendre parce que les pays nordiques, ils ont une culture de la responsabilité, alors que les pays du Sud ne l'ont pas du tout. Ce choc de culture est intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses dans la gouvernance. On voit que l'Allemagne, elle accélère le processus, elle a déjà mis en place des logements, les gens sont logés, on a prévu un plan qu'ils y resteront 1 à 2 ans, ils ont les papiers, ça va très très vite en Allemagne en ce moment. Et l'Allemagne s'est engagée, c'est vrai, on dit qu'elle en profite, c'est de bonne guerre, pour résoudre ses problèmes de démographie vieillissante. Elle s'est engagée à aller jusqu'à 800 000 accueils par an. Donc c'est quand même assez considérable. La Suède est ouverte, l'Autriche est ouverte également. Donc l'autre débat qui se pose, c'est combien de gens on peut accueillir. Alors, beaucoup ont parlé des quotas. L'Autriche est même allée jusqu'à proposer qu'il y ait éventuellement des sanctions pour ceux qui ne voudraient pas accueillir des migrants. Bon, la chancelière allemande essaie de temporiser en disant que cela n'est peut-être pas nécessaire et qu'il faudrait, au lieu de penser quota, penser au jour le jour et voir la réalité sur le terrain et s'adapter en fonction de cela. Donc le pragmatisme et l'efficacité allemande est là. Du côté du Royaume-Uni, on a un autre débat qui s'oppose. Bien sûr, ils sont aussi pragmatiques. Le tout n'est pas d'accueillir des migrants. Il y a la question de comment faire pour fixer les populations sur place, donc d'aller se confronter à Daesh au Royaume-Uni. Jeremy Corbyn, les membres de l'opposition, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que cela va créer, comme en Irak, plus de problèmes qu'il ne résoudra. Donc, on va conclure et dire que l'effort est devenu international ainsi que le représentant spécial des Nations Unies pour les migrations et le développement l'a souhaité, M. Peter Sutherland, qui appelle le monde entier à se joindre à l'effort d'asile, lequel appel est corroboré par le chancelier Werner Faymann de l'Autriche, qui lui appelle carrément à une réponse similaire à celle qui a eu lieu lors de la crise financière. Plusieurs pays ont répondu présents à l'appel, notamment les pays de l'Amérique du Sud, donc tout va bien, hein. Il n'y a pas de quoi crier au feu. On dira qu'il y a eu plus de peur que de mal.